Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Chez les cyclistes, on appelle ça avoir le vent de face. C'est ce qui semble arriver depuis plusieurs semaines à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Même si elle en a l'habitude, les polémiques se multiplient, mais, et ça c'est nouveau, les vrais ennuis aussi, comme le fiasco du changement d'opérateur du système de vélo en libre-service Vélib, et plus récemment, l'annulation par la justice de la piétonnisation des voies sur berge rive droite dans le centre de la capitale. La recomposition politique en cours atteint évidemment Paris, sa popularité est en baisse et les appétits en vue des municipales de 2020 s'aiguisent. Anne Hidalgo peut-elle continuer à avancer face au vent? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Bruno Cotrès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po Paris. Et Pierre Le Pelletier, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Vous êtes journaliste politique au quotidien Le Figaro. La dernière bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, c'était le 13 septembre dernier, en 2017. L'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, c'était à Lima. Et au même moment, à Paris, il s'est mis à pleuvoir et depuis... Il pleut des mauvaises nouvelles sur la mairie de Paris depuis presque 6 mois, de la polémique sur le coût du déplacement de la délégation parisienne à la session olympique jusqu'à l'annulation de l'arrêté interdisant la circulation sur les voies sur berge, en passant par la crue de la Seine qui a fait ressortir les rats dans Paris. Anne Hidalgo subit. Est-ce que c'est votre avis également, Bruno Cotrès?
Oui, je ne sais pas si on puisse dire qu'elle subit. Il y a aussi des événements, par exemple les événements climatiques pour lesquels sa responsabilité n'est pas engagée, évidemment. Mais c'est certain qu'on a le sentiment d'une Anne Hidalgo qui, à un moment donné, a incarné une vraie dynamique. Quand elle s'est imposée, qu'elle est devenue maire de Paris, qu'elle s'est imposée dans le paysage politique et médiatique français, on a une Anne Hidalgo, à ce moment-là, qui semble même crever l'écran par certains moments. Une personnalité qui est une personnalité qui semble pouvoir renouveler aussi la gauche, compter dans les personnalités importantes et montantes du Parti Socialiste. Et là, on a une accumulation impressionnante de dossiers sur lesquels elle est en difficulté. Et ce qui me frappe, moi, surtout, c'est que ce sont des dossiers sur lesquels elle a engagé une partie importante de son crédit politique. Tout ce qui concerne, au fond, la circulation à Paris, les questions d'environnement, les questions, au fond, de faire vivre la ville de Paris, eh bien, à l'heure de l'écologie, à l'heure du transport en vélo. Et donc, elle est en difficulté sur des dossiers qui sont des symboles extrêmement importants de ce qu'elle a voulu incarner.
Est-ce que, selon vous, Pierre Le Pelletier, j'ai un peu exagéré dans ma présentation, est-ce que vous avez repéré, vous, une petite bonne nouvelle ces 6 derniers mois pour Anne Hidalgo?
Moi, je vais être honnête, je suis venu en taxi ce soir à RFI. Alors évidemment, les taxis, c'est pas les électeurs les plus favorables à Anne Hidalgo, mais c'est quand même des gens qui rencontrent beaucoup de Parisiens. Et le monsieur qui me conduisait jusqu'ici m'a dit que les Parisiens étaient un peu excédés par tout ce qui s'est passé, par la piétonnisation des voies sur berge et avant tout par la méthode. Et il trouvait que Anne Hidalgo se bornait finalement avec sa méthode. Et lui, en tout cas, ne revotera pas Anne Hidalgo. Et donc, il me dit aussi que les autres non plus, enfin les conducteurs, les personnes qui le transportent non plus. Et donc, ça peut effectivement jouer en 2020, en tout cas. Ça peut être une faute qu'elle pourra payer en 2020.
Alors, les conséquences, Bruno Cotrès, de cette impopularité qu'on sent de manière un petit peu empirique dans les sondages d'opinion, est-ce qu'elle est en chute libre
Oui, alors c'est peut-être...
C'est un peu exagéré de parler de chute libre.
Oui. Voilà, chute libre, mais c'est certain que toutes les dernières mesures de popularité d'Anne Hidalgo sont le souhait de lui voir prendre un rôle important dans les années à venir a été mesuré il y a quelques semaines par l'Institut de sondage Elab. On voit qu'elle a perdu beaucoup de points. Et elle a perdu beaucoup de points non seulement à l'intérieur de l'ensemble de l'électorat, mais aussi à l'intérieur de la gauche. Alors, à l'intérieur de la gauche, elle conserve évidemment beaucoup plus de crédit qu'à l'intérieur de l'ensemble de l'électorat, mais on voit qu'effectivement, elle a un souci qui est toujours quelque chose de très, très, très important pour une élection municipale, c'est d'apparaître aussi comme quelqu'un de rassembleur. La figure du maire en France, c'est une figure politique qui est assez particulière. Les maires, bien sûr, de grandes villes ont une étiquette politique. Ils sont des symboles des organisations politiques auxquelles ils appartiennent. Mais le maire a quand même d'abord et avant tout l'image d'un bon gestionnaire de la ville, de quelqu'un qui facilite. Et là, effectivement, sur cet aspect, eh bien, Anne Hidalgo est devenue beaucoup plus clivante.
Est-ce que c'est la même chose dans les sondages nationaux? Parce que c'est des sondages qui sont réalisés au plan national. Et est-ce qu'il y a des sondages parisiens qui disent ça également pour la ville de Paris?
On dispose encore de peu d'enquêtes et c'est vrai qu'il faut avoir la prudence de rappeler que les élections municipales de 2020, c'est quand même pas pour demain tout de suite.
Oui, c'est dans deux ans.
Voilà, c'est dans deux ans, donc il faut faire très attention de ne pas commenter des sondages d'intention de vote ou même de popularité qui serait si éloignée de l'élection. Mais c'est certain qu'on voit que même sur Paris, elle n'est pas tellement en bonne santé non plus au plan de son image et au plan de son potentiel électoral.
Et si je peux me permettre, oui, elle avait fait part de l'écologie quand même, sa colonne vertébrale, Anne Hidalgo. Enfin, c'était vraiment son truc et elle allait montrer aux Parisiens qu'elle pouvait rendre la ville plus verte, plus écologique, avec moins de pollution. Et là, du coup, avec l'annulation de la piétonnisation des voies sur berge, c'est forcément, ça montre une mauvaise image de sa politique. Et surtout que c'est une image qui est visible à la vue de tous les Parisiens. Et donc, évidemment, c'est quand même, ça devient quand même compliqué pour elle. C'est forcément un signe de faiblesse d'Anne Hidalgo. Alors, évidemment, je rejoins, les municipales ne sont qu'en 2020, donc c'est dans deux ans, on a encore un peu le temps. Mais c'est quand même un signe qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Les amis d'Anne Hidalgo expliquent que son socle électoral est toujours là. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, d'après ce que vous pouvez voir ou sentir dans vos études, est-ce que ce socle électoral a tendance à s'effriter un petit peu ?
Ah ben c'est certain qu'on a vu lors de l'élection présidentielle et des élections législatives qui ont suivi, on a quand même vu que La République En Marche se portait plutôt bien sur la ville de Paris.
35% pour Emmanuel Macron.
Est très au-dessus de sa moyenne nationale et au premier et au deuxième tour. La République En Marche obtient un certain nombre de sièges aussi de députés. Donc on voit quand même qu'il y a une dynamique La République En Marche sur la ville de Paris. Ça pose évidemment une question stratégique fondamentale pour Anne Hidalgo, qui on voit bien l'objet sans aucun doute d'hésitation de sa part. Que faire par rapport à La République En Marche ? Est-ce qu'il s'agit au fond de montrer patte blanche et de commencer à dire finalement on pourrait avoir une alliance et on voit que La République En Marche va être fortement courtisée parce que du côté des Républicains aussi. Eh ben on y a pensé avant aussi. Donc ça pose une question de stratégie électorale à Anne Hidalgo qui me semble tout à fait essentielle dans la perspective des municipales.
Pierre Le Pelletier.
Et il faut se rappeler que quand Anne Hidalgo prend la mairie en 2014, c'est dans la foulée de l'élection de François Hollande en 2012. D'ailleurs, elle s'est présentée candidate très vite après l'élection présidentielle de François Hollande. Or, là, le contexte, il est complètement différent. Enfin, on a vu une vague Emmanuel Macron, on a vu presque 35% en marche à Paris, donc il y a vraiment une tendance Emmanuel Macron. Donc, effectivement, Anne Hidalgo, aujourd'hui, est en train de se poser la question, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas mieux se rallier avec En Marche, même si évidemment En Marche va se dire est-ce qu'on a un intérêt à se mettre avec Anne Hidalgo, sachant qu'elle est en difficulté.
La recomposition politique, on a commencé à en parler, est en cours au plan national et elle a des conséquences évidemment à Paris, vous venez d'en parler, avec En Marche. Les leaders de l'opposition parisienne ont été battus, ont été balayés aux dernières législatives. Elle devrait avoir logiquement un boulevard, Anne Hidalgo, Bruno Cotterêts.
Elle devrait avoir un boulevard, mais il y a quand même un problème aussi de renouvellement des figures politiques parisiennes, y compris dans son camp. Je pense qu'il y a un enjeu, d'ailleurs, avant qu'on parle de ça, je pense qu'il y a un enjeu très important pour Anne Hidalgo dans la perspective des municipales, c'est surtout de montrer qu'elle n'est pas seule. Au fond, elle est bien sûr la figure du maire, mais de montrer qu'il y a une équipe autour d'elle, qu'il y a des gens qui peuvent incarner une forme de relève, peut-être que de nouveaux visages aussi peuvent apparaître. On a vu qu'à quel point, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la thématique du renouvellement du personnel politique français était une thématique très importante pour les Français. Et je pense qu'il va s'agir pour Anne Hidalgo, si elle souhaite bien se préparer à cette élection municipale, de s'inscrire dans cette tendance et dans ce courant, de renouveler les visages et de faire monter des nouvelles personnalités qui peuvent incarner un nouveau souffle.
Pierre Le Pelletier,
surtout qu'Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle va arriver en 2020 avec une gauche qui a quand même éclaté. On a le Parti Socialiste, donc il faudra voir aussi leur position là-dedans vis-à-vis d'Anne Hidalgo. Il y a le mouvement Génération de Benoît Hamon qu'il ne faut pas sous-estimer parce que Benoît Hamon a fait, il me semble, dans les 10% à Paris. Et il y a surtout la France Insoumise qui représente aujourd'hui la vraie alternative de gauche. Et donc, il faudra voir eux aussi leur stratégie. Est-ce que c'est pas la France Insoumise qui va siphonner la partie gauche de l'électorat d'Anne Hidalgo ?
La majorité de gauche est donc affaiblie et touchée par l'éclatement de la gauche en général et du PS en particulier. Est-ce que mécaniquement ça affaiblit Anne Hidalgo qui a été élue avec une majorité qui reposait sur ces bases-là, Bruno Cotterêts ?
Oui, c'est certain qu'une élection municipale n'est jamais totalement déconnectée des autres élections qui ont lieu dans d'autres circonscriptions. Circonscription législative, circonscription départementale, une élection, ça s'apprécie toujours comme une interaction entre plusieurs territoires. Quand on a une élection municipale, il est évident que les résultats des élections, par exemple sénatoriales, législatives, départementales vont agir, puisque les élus qui ont été élus dans ces élections sont autant de canaux de mobilisation. Ils vont jouer le rôle, au fond, à un moment donné, de faire campagne pour le candidat aussi à la ville-centre, la ville de Paris. Donc évidemment, être affaibli dans l'ensemble des territoires, pas seulement celui de la commune de l'élection, c'est vraiment pas un bon point, ça c'est certain.
L'éclatement à gauche.
Et en plus, oui. Anne Hidalgo, on le voit, ne rentre pas finalement dans le jeu aujourd'hui du Parti Socialiste. Il y a quand même un congrès qui va se tenir dans un mois, même pas. Et pourtant, Anne Hidalgo préfère prendre du champ. Je pense que c'est un choix stratégique de sa part, en disant je vais pas aller mêler à quelque chose où on sait pas où ça va mener.
C'est ce qu'elle disait d'ailleurs avant l'élection. Hein. Elle avait fait une interview au journal Le Monde en expliquant que elle ne s'interdisait rien, ouais. Elle prenait ses distances.
Hein. Ouais. Tout à fait. On avait vu effectivement une interview qui était extrêmement intéressante. Et on voyait qu'elle n'entendait pas être prisonnière des jeux qui allaient se dérouler au sein du Parti Socialiste. Elle n'a pas souhaité se présenter à la primaire, elle n'a pas souhaité se présenter aussi au leadership du Parti Socialiste. Donc effectivement, pour elle, la question va être de savoir quelle est la base électorale à partir de laquelle elle veut construire quelque chose. Est-ce qu'elle souhaite relancer aux électeurs de la gauche sur Paris l'idée qu'ils vont faire face ensemble aux élections municipales et éventuellement contre une liste En Marche, ou est-ce qu'au contraire, ça va être de dire, moi je m'inscris plutôt dans les Macron compatibles à gauche et plutôt dans ce renouvellement. C'est en ça que je disais qu'il y a une question de stratégie qui est tout à fait essentielle qui se pose à elle et qui va aussi dépendre en partie des rapports de force à l'intérieur de la gauche juste avant les élections municipales.
Pierre Le Pelletier, oui.
On pourra aussi entendre des voix fortes. Je pense à Christiane Taubira. Elle pourrait peut-être se prononcer aussi en faveur d'Anne Hidalgo. En fait, on voit peu de gens aujourd'hui se serrer les coudes autour d'Anne Hidalgo et on a l'impression qu'elle est assez isolée en fait à gauche. Mais voilà, encore une fois, c'est dans 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses, peut y avoir des prises de position, des personnalités qui plaisent encore à gauche. J'ai cité Christiane Taubira. Voilà, donc rien n'est figé, on est encore en 2018.
Comme le disait Bruno Cotterêts, est-ce qu'elle va devoir et pouvoir éventuellement changer de majorité en 2020? Est-ce qu'une alliance avec La République En Marche vous paraît possible?
Elle doit tout envisager, à mon avis. Franchement, elle doit tout envisager. On le sent bien. Tout dépendra aussi des alliances qui seront faites, dans quel sens ces alliances seront faites, etc.
Avant cette présidentielle, l'inimitié entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo était de notoriété publique. Hein, on le savait, notamment sur la question de l'ouverture des commerces le dimanche. Il s'était très vivement accroché quand il était ministre de l'économie. Est-ce que ça s'est arrangé selon vos informations, Pierre Le Pelletier?
On a l'impression. Déjà, ils s'affichent ensemble. Ils ont remporté quand même une victoire qui était Paris 2024. À voir si Anne Hidalgo va surfer dessus, mais on a l'impression qu'il y a quand même une meilleure entente entre les deux. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi.
Oui, sans doute. Alors après, il y a les rapports personnels et puis il y a les rapports politiques. Ouais. Les rapports politiques, c'est plus une prise de judo pour savoir lequel des deux, à un moment donné, quand on va se rapprocher des élections municipales, sera le plus en mesure de revendiquer le siège du maire. Parce que dans une alliance électorale, pour une élection municipale, au fond, la vraie question, c'est plutôt de savoir qui va occuper le siège principal. L'élection municipale à Paris est relativement complexe, de ce point de vue-là, pour obtenir le siège de maire.
Il y a une vingtaine d'élections.
Donc en fait, c'est surtout...
Un peu moins maintenant avec la réunion.
Je pense que c'est surtout ça qui, à un moment donné, va montrer peut-être des tensions ou que c'est beaucoup plus compliqué parce que toute organisation politique qui s'engage dans une alliance électorale, à moins qu'elle ne soit extrêmement minoritaire et qu'elle joue le rôle uniquement de force d'appoint, mais toute organisation politique assez solide qui s'engage dans une coalition électorale entend évidemment être le principal bénéficiaire.
Alors il y a un silence assez prudent pour l'instant de La République En Marche sur cette question de ce qui va se passer en 2020. Pourquoi? Notamment de la part de Benjamin Griveaux.
Mais parce que tout simplement, Benjamin Griveaux, aujourd'hui, on a du mal à l'entendre. Macron l'a propulsé au rôle de porte-parole du gouvernement. Or, il est complètement inaudible. Enfin, il a du mal à imprimer, on le sent. Il n'infuse pas. Et donc, on commence à se poser la question, mais qui va pouvoir prendre, s'il y avait une tête de liste en marche au municipal, à Paris, qui prendrait cette tête de liste? On a du mal à voir des noms. Il y a eu un texte dont a révélé le Canard Enchaîné, qui montrait que Macron préférait être prudent face à des députés En Marche qui voulaient critiquer ouvertement la politique d'Anne Hidalgo. et le gouvernement a préféré faire un marche arrière en disant attention, on ne va pas se brouiller tout de suite. Après, c'est le canard enchaîné, donc il faut toujours se méfier.
Pourquoi cette prudence selon vous, Bruno Cotterêts ?
Ben, au nom de ce jeu stratégique dont on parlait tout à l'heure, il s'agit en politique toujours de ne pas se lier les mains trop vite et trop fortement, c'est-à-dire d'avoir, de se donner toute latitude à un moment donné de pouvoir retirer un bénéfice important d'une situation. Et donc, tout acteur stratégique sait qu'il ne faut surtout pas se lier les mains trop vite et retirer un bénéfice. Ça peut être soit finalement, au bout du compte, obtenir le poste de maire de Paris ou faire une entrée en force au conseil municipal de Paris, ce qui déjà, pour La République En Marche, serait quelque chose d'extrêmement important parce que va se jouer au moment des élections municipales presque, je dirais, la balle de match du mandat d'Emmanuel Macron. Si La République En Marche arrive à montrer qu'elle existe dans les territoires, qu'elle existe dans les villes, elle peut de manière extrêmement crédible se positionner comme ayant réussi l'opération. Ça n'est plus à ce moment-là simplement un phénomène Macron, une dynamique Macron, mais ça devient un phénomène politique enraciné dans le territoire.
Pierre Le Pelletier, balle de match, balle de break peut-être deux ans avant la présidentielle, c'est presque ça.
Mais il faut voir comment aussi Anne Hidalgo, encore une fois, réagit dans les deux ans à venir. On voit que là, elle traverse quand même une année 2017-2018 très compliquée. Il faut voir quelle stratégie elle va aborder dans les deux prochaines années à venir pour voir comment elle peut inverser la tendance, même si c'est vrai qu'il y a eu quand même des coups durs, notamment l'annulation de la piétonnisation des voies sur berge, qui, encore une fois, symboliquement, est visible aux yeux de tous les Parisiens et donc peut lui coûter très cher en habituel.
Bruno Cotterêts ?
Oui, elle joue. Il y a un autre dossier parisien sur lequel elle joue très gros, qui est effectivement le dossier Vélib. La mairie de Paris annonce qu'elle est en train de reprendre en main l'opérationnalisation technique de la mise en œuvre du Vélib à Paris.
On va expliquer ça à nos auditeurs, ils ne le savent pas forcément. Le Vélib, c'est un service de vélo en libre-service qui a changé d'opérateur au 1er janvier. Et nous sommes le 1er mars et la station Vélib devant le siège de France Média Monde n'est toujours pas opérationnelle.
Voilà, et donc la mairie de Paris a annoncé qu'elle allait maintenant reprendre le dossier technique et mettre ses forces techniques en œuvre. Il est évident que si Anne Hidalgo arrive à montrer une forte capacité de ce point de vue-là, avoir fait face à une situation technique difficile et répondre au problème de déplacement vélo des Parisiens, elle marque un point.
Et encore une fois, c'est un exemple vraiment concret aux yeux de tous les Parisiens qu'il y a eu une défaillance au système Vélib. Et encore une fois, du coup, vu que c'est visible aux yeux de tous les Parisiens, c'est quelque chose qui fait forcément mal d'un point de vue politique.
Et c'est quelque chose sur lequel ses électeurs, à Anne Hidalgo, comptent forcément pas mal, le système Vélib. Ça s'adresse à son électorat.
Bah oui, bien sûr. Bien sûr, cet électorat qui préfère le déplacement en vélo au déplacement en voiture. Et donc, encore une fois, c'est vrai qu'elle est mise en difficulté. Quelle que soit sa responsabilité, parce que sur les événements climatiques, encore une fois, elle n'a aucune responsabilité, mais quelle que soit sa responsabilité, elle est mise en difficulté sur des dossiers sur lesquels, justement, elle a misé très fort du point de vue de son projet politique à Paris.
Est-ce que Anne Hidalgo s'est trop éloignée de Paris pendant ces derniers mois pour se consacrer à l'international avec les Jeux Olympiques, avec le C40, l'Alliance des villes pour le climat? Est-ce qu'elle s'est un petit peu éloignée, Pierre Le Pelletier? Est-ce qu'elle le paye, ça aussi?
Moi, j'ai pas l'impression. J'ai surtout l'impression qu'il y a une méthode qui a agacé les Parisiens, beaucoup de Parisiens, et qu'elle le paye aujourd'hui assez cash. Ensuite, voilà, il faut voir comment cela évolue. Mais je pense que c'est surtout la méthode qui en a crispé certains, même si je pense que beaucoup de Parisiens sont favorables à ce qu'il y ait moins de pollution, mais beaucoup ont été choqués par cette vitesse, en fait, des méthodes.
Est-ce que c'est des dossiers comme le Vélib, ça peut être une solution pour reprendre la main d'ici deux ans?
Oui, c'est avoir certain des succès qu'elle doit, elle doit reprendre la main et avoir un succès important sur un dossier minimum sur lequel elle a beaucoup investi, qui est un dossier qui concerne directement la question des transports, la question de la pollution. Donc c'est typiquement des dossiers sur lesquels elle ne peut pas être en échec sur tous les fronts.
Merci Bruno Cotterêts, politologue chercheur au CEVIPOF, et merci à vous Pierre Le Pelletier, journaliste politique au quotidien Le Figaro. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Sigrid Azeroual à la coordination, Simon Carteret à la documentation et ce soir à la réalisation, Anthony Bellard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur nos applications mobiles dont l'application RFI Pure Radio rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.